Non, la loi du silence, très importante pendant une retraite. Et c'est pas, on n'est pas des gendarmes, là. Quelle est celle qui parle, là, dans un coin? Bon, on ne vous surveille pas, mais. Et puis, vous savez, nous, moines, enfin, religieux, on est souvent repris pour le silence. On sait que c'est difficile de garder la langue. Mais si vous le faites, vous verrez que vous avez des grâces très spéciales à l'intérieur. Paroles qu'on ne dit pas aux hommes, le bon Dieu mérite qu'on entende des paroles du bon Dieu. Bien, avant que je l'oublie, donc, monsieur l'abbé Troidec m'a rappelé, après le repas, façon pratique, pour celles qui donc n'ont jamais fait de confession générale. Mais peut-être le mot général déjà effraie, et même certains le mot confession. Donc, si vous n'avez jamais fait de confession générale, c'est vrai qu'à l'occasion d'une retraite, ça peut être bon de faire le point. Faire le point justement un peu sur les sommets ou alors les crevasses de notre vie. Hein, donc, et puis le prêtre vous aidera, vous voyez, hein, vous pouvez lire tranquillement dans les missels, il y a souvent un examen de conscience. Vous pouvez lire un peu. Bon, si vous faites une courte prière à l'Esprit Saint, la Sainte Vierge va vous montrer les gros péchés de votre vie, en gros déjà. Hein, puis après, par quel côté commencer? Alors un père bénédictin me disait, c'est très simple. Quand vous voulez soulever un tapis, faut pas vous demander par quel côté du tapis vous allez prendre. Vous en tirez un, hein, les autres vont venir avec. Donc, commencez par un bout, tirez la ficelle, puis on verra. Ou bien encore, une autre image, ah, mon père, je ne sais pas si j'ai pas oublié des péchés, si, etc. L'iceberg. Regrettez ce que vous voyez. Il y a peut-être beaucoup plus en dessous, mais regrettez déjà ce que vous voyez. Et ce que vous allez regretter à cause de la contrition sur ce que vous voyez va vous mériter de connaître peut-être d'autres qui sont en dessous, peut-être des fois plus profonds ou plus dangereux. Voyez? On reparlera peut-être pendant l'instruction. Le but, c'est pas, le bon Dieu, c'est pas un apothicaire, un je sais pas quoi, un commissaire-priseur, on n'a rien oublié. Bon. Il y en a, leur angoisse semble se concentrer sur le péché oublié. Celui que justement le bon Dieu pour lequel il va me condamner. C'est pas de Dieu, ça. Regrettez ce que vous connaissez, puis laissez le reste à sa miséricorde. Donc, si vous avez jamais fait, on vous aidera. Hein? Pas d'inquiétude, vous aidera, c'est pas très chinois. Bon. Deuxièmement, pour celles qui sont les habituées, surtout les habituées des exercices de Saint-Ignace, bon, alors vous pouvez vous confesser depuis la dernière retraite, si vous voulez. Pour certaines, même une retraite, simplement la confession annuelle peut suffire. En général, sur une année, voire des fois sur une semaine, on a à peu près tout l'éventail des péchés qu'on fait toute l'année, toute la vie. Bon, alors, soit depuis la dernière retraite, soit durant l'année. Hein. Et pour les inquiètes ou les scrupuleuses, elle demande au prêtre et il leur dira. Pour certaines, il vaut mieux pas faire de confession générale, elles vont penser qu'à ça, ça va gêner les fruits de la retraite. Vous pouvez faire demain, donc, et puis si vous n'avez pas fait demain, vous pouvez faire un peu plus tard, quand vous vous sentirez plus mûr, plus imprégné de l'amour de Dieu, de sa bonté, plus pénétré de sa sagesse, plus lucide intérieurement, plus calme. Vous inquiétez pas, certaines mettent du temps à rentrer en retraite. Il faut des fois 1, 2, 3 jours. Ah, parce qu'il y a de la fatigue, il y a des soucis, il y a un tas de choses. On n'arrive pas à rentrer dans la retraite. Bien. Alors entrons dans notre sujet, donc la confession. La confession des péchés. Alors, on appelle donc le sacrement de pénitence, on devrait dire. Ce serait mieux. Parce que la confession est ce qui paraît le plus à l'extérieur, est ce qui nous mérite l'absolution. Mais en fait, ce qui est important, c'est surtout ce qui prépare et ce qui est implicite au moment où on se confesse. Donc, la confession des péchés, c'est-à-dire des actes, en vue de quoi? Du pardon sacramentel, de l'absolution. C'est important, ça. Hein? Pas confondre, nous en parlerons, je pense, ne pas confondre l'absolution avec la direction. Voire la psychoanalyse, pas forcément freudienne, mais enfin au moins psychoanalyse. Je rappelle les trois conditions nécessaires pour un péché mortel. Je ne l'ai pas fait hier, je voulais insister sur autre chose, un autre aspect. Il me semblait que le reste, vous ouvrez un catéchisme et même un bon missel, on vous indique les choses. Bon. La matière grave, matière grave. Alors selon les commandements de Dieu, les péchés contre Dieu, etc. Bon, matière grave. Un commandement qui vise Dieu ou le prochain. Voilà. Alors Dieu, ben, péché contre la religion directement, etc. Vous verrez ça. Bon. Une matière grave, quelque chose d'important qui concerne Dieu, le mal de Dieu, ou le mal du prochain, ou mon mal à moi. Soit grave. Mais ça ne suffit pas, la matière, qui est matière à péché grave. Il faut également adhésion et connaissance de l'intelligence. Je sais que c'est grave. Si je ne le sais pas, il n'y a pas péché. Je fais un péché matériellement grave, mais je ne sais pas. On ne m'a pas dit, etc. Il y a une matière grave, mais il n'y a pas péché formel. Il n'y a pas péché explicite. Hein? Bon, c'est important ça. Donc, connaissance, advertence, bon. Puis consentement, voilà, je le veux. Je sais que c'est grave. Je le vois, plus ou moins confusément, à cause de ma mauvaise passion. Ben, quand même, je le sais. Et puis, j'adhère. Voilà. Pour tout péché, ça, mortel ou véniel, il faut que ça. Une matière, l'adhésion de l'intelligence, la vue de l'intelligence. Et ce qui est coupable, évidemment, c'est surtout la volonté, surtout l'intention. Surtout ça qui est important. Matière grave, pleine advertance, plein consentement. Advertence, être averti par l'intelligence, savoir par son intelligence. On désobéit gravement à la loi de Dieu en matière grave. Alors, par exemple, le blasphème volontaire. Pas lié à ce qui passe dans mon imagination parce que j'entends des blasphèmes autour de moi ou parce que j'en ai dans la tête, auxquels j'adhère pas du tout, que j'ai horreur et ça me fait beaucoup souffrir. Bon, c'est pas un péché. Une tentation. Apostasie. Irréligion. Bon. Alors contre une vertu très importante, la justice envers Dieu, envers le prochain. Ce que je dois aux autres. Ou à la charité. Alors, je sais pas, moi, le meurtre, le vol, le mensonge, le vol grave, la haine du prochain, médisance grave, etc. Ou même aussi, pas seulement un commandement de Dieu, un commandement de l'Église. Si volontairement je fais pas mes pas, quand temps voulu, péché grave. Bon, je le sais, si je le sais, bien sûr. L'advertance, donc se rendre compte de ce qu'on fait, plus ou moins confusément, plus ou moins, bon, c'est là souvent que, on ne sait pas, même vous savez pas très bien, et le prêtre ne sait pas toujours. Bon, c'est pas d'ailleurs l'important qu'il le sache absolument. Souvent, il y a certains péchés, on ne sait pas très bien pour quel péché on a l'absolution. On essaie de le savoir, on pose question pour les circonstances. Voilà. On sait qu'on est en train de faire une action qui ne va pas, qui n'est pas correcte, qui n'est pas droite. Bon. Si quelqu'un mangeait, par exemple, la viande un jour prescrit dans l'année jeûne par l'Église, sans le savoir, il ne pécherait pas. S'il ne sait pas qu'on doit s'en abstenir, ou s'il a oublié pour une raison ou une autre, comme ça arrive souvent. Puis s'il ne connaissait pas le commandement de l'Église non plus, il n'y aurait pas péché. Bon. Faut vous dire, je ne veux pas trop essayer de savoir, parce que, comme certains Jésus disaient, finalement, mon père, avec ça, il n'y a que des prêtres qui peuvent faire des péchés graves. Non, il faut essayer d'éclairer la conscience quand même. Si je ne veux pas savoir, attention, l'ignorance invincible, c'est un péché, ça. Je ne veux pas savoir parce que si je sais, faire des péchés nouveaux, j'ai dû faire plein de péchés. Non. En plus, si vous apprenez, ça c'était péché, et que vous réexaminez votre vie, vous n'êtes pas jugé sur la connaissance que vous avez au moment de l'examen, mais selon celle que vous aviez quand vous avez commis le péché, peut-être qu'elle n'existait pas. Attention, tout ça c'est des distinctions importantes, pas tout mélanger. Et puis surtout donc le consentement de la volonté, c'est quand même surtout là, parce que l'intelligence, le bon Dieu excuse les ignorances, des fois suivant que la passion est plus ou moins coupable. Mais la volonté, et la culpabilité de la passion qui pousse la volonté, c'est là surtout qu'est la faute, que va s'introduire facilement le péché. Nous voulons pleinement faire cette mauvaise action. Voilà. Alors bien se souvenir qu'il y a des péchés mortels par action, externe, interne, qu'il y a des péchés par pensée, je ne le dis pas trop aux dames parce que vous confondez souvent le sentir et le consentir, mesdames, très souvent, quand on entend aux confessions, sans révéler le secret de la confession, confondez le sentir et le consentir. Alors, vous pouvez toujours le dire, je crains que, mais bon, attention. Les pensées, les sentiments. Sentir n'est pas consentir. En matière de pureté, en matière de jugement sur les autres, en matière de blasphème, sentir n'est pas consentir. Ou imaginer n'est pas consentir. Attention. Et puis attention, ce qu'on oublie souvent, trop souvent, les péchés d'omission. Ah, on n'y pense pas cela. Omission dans le devoir d'État habituel. Omission. On appelle ça le péché des honnêtes gens. Ils pratiquent pas le dimanche. Ah mais je fais pas de mal à mon prochain. Puis d'abord, il y en a qui vont à la messe et puis qui sont pas meilleurs que moi. Bah peut-être, mon ami, mais en attendant, vous péchez contre votre premier prochain, qui est le bon Dieu. Bon. Des péchés de parents qui négligeraient gravement l'éducation de leurs enfants. Attention donc, les péchés d'omission. Alors ne n'allez pas non plus, c'est là aussi que peut s'introduire ces questions de péché, j'en ai oublié. Bon, vous examinez un peu vos devoirs et vous voyez vos grands devoirs selon votre état, selon les commandements. Et puis, bon, ensuite, vous regardez s'il n'y a rien qui manque gravement. Voilà. Puis, au besoin, vous interrogez le prêtre. En général, quand il y a un péché d'omission, il y a quand même quelqu'un qui dit « aïe ». Ou le mari, ou les enfants, ou des personnes qui réclament ma famille, ou mon devoir professionnel. Péché par omission, on néglige, on met derrière. Bon. Alors hier, je me suis surtout arrêté donc à la gravité du péché comme péché mal de Dieu, mal de Jésus-Christ, mal en Jésus-Christ, mal de l'homme, parce que forcément, le péché augmente chaque péché, c'est ce qui explique le purgatoire, introduit d'abord la culpabilité et un désordre social. Même le péché particulier fait en secret, que personne ne sait, que personne n'a vu, il introduit un désordre dans tout l'univers moral et spirituel. Et alors, à cause de ça, eh bien, il y a une justice immanente, qui est en route, qui fait, on a troublé l'ordre de la création, eh bien, ça suit, des désordres vont s'en suivre, des peines. Dans le péché, il y a la culpabilité, la culpa, la faute, la responsabilité dont on vient de parler, là, surtout en matière grave, question de la responsabilité de la volonté. Et puis, un certain nombre de désordres. Bon, je prends toujours cet exemple au catéchisme, puis même pour les plus grands que ceux qui font du catéchisme. Vous allez à un mariage, et puis pendant 2 jours, vous faites des gros banquets, et puis vous faites de la gourmandise, là, vous rattrapez, là, toutes vos semaines, la mauvaise cuisine de la semaine, on se rattrape, là, à l'occasion des mariages, des repas de mariage, gourmandise, puis bon, vous faites votre examen de conscience 2-3 jours après, dites, quand même, j'ai beaucoup cédé, mais en plus, j'ai une crise de foi, je suis malade, alors, oui, on va les deux tout de suite. Alors, vous allez vous confesser, peut-être vous avez été tellement rendu malade, là, pendant 2 jours, ben, quand vous aurez été pardonné de vos péchés, vous aurez encore mal au foie. Et vous digérez pas bien. Vous aurez la colique ou autre chose. Bon, voyez? Bon. Voyez? Les deux désordres. Alors, il y a eu la responsabilité. Vous êtes pardonné, c'est fini. Vous êtes blanc devant Dieu. Fini. Mais le désordre reste là. Et reste là, à rectifier. Si pendant des années j'étais paresseux, bon Dieu me pardonne mes péchés de paresse quand je les regrette, mais je vais payer ma paresse. Si pendant des années j'ai des gourmandes, sensuelles, maintenant je veux réagir, ah, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que ma carcasse, elle est habituée à ce qui est sensuel. Vous voyez? C'est ça qui aussi, c'est très important. Non, je pense qu'il vous en parlera surtout dans le combat spirituel. On prend conscience d'un état de péché ou d'une tendance au péché très forte qui s'imprime dans notre structure, dans notre corps et dans notre âme. Il y a des habitudes qui sont là, des habitudes, c'est remonter la pente. D'où ce crime. Ce crime des gens qui disent: moi, je veux que mes enfants, ils choisissent leur religion. Je le ferai baptiser plus tard. Mon ami, vous êtes un criminel. Pourquoi? Bon, d'abord parce que vous ne savez pas que le bon Dieu doit venir tout de suite dans l'âme. Mais à l'âge où il va comprendre cet idéal, cette beauté de la vie humaine et divine, il va voir l'idéal, il va désirer l'idéal. Et qu'est-ce que vous aurez fait pendant toutes ces années où vous l'aurez laissé vivre n'importe comment? C'est laisser croître en lui des choses qui vont lui rendre impossible l'idéal. Vous voyez? Typique. Voilà. Exemple d'idéalisme et de stupidité. Bien, voilà donc pour le péché mortel. Alors, nous sommes tenus qu'à donner nos péchés mortels. À strictement parler, quand l'Église oblige une fois par an à faire la communion pascale, la confession et communion pascale, ce sont d'abord les péchés mortels. Ah, mais je ne fais pas péché mortel et que je me confesse quasi pas dans l'année. Il me restera quand même à regretter ce que j'ai pu commettre, à moins que je sois l'Immaculée Conception. Il me restera quand même à regretter ce que j'ai pu déjà dire et confesser. Et puis, il y a toute cette tourbe aussi quand même, des péchés véniels dont je vous ai parlé hier. Bon. Donc, ces péchés véniels en matière légère. Pas quelque chose de grave concernant Dieu ou le prochain. Alors, c'est le cas, par exemple, en gros, puisqu'on parlait de la gourmandise, le plus souvent, ce sont des péchés véniels. Si vous étiez comme les Romains qui se faisaient rendre et puis après, ils recommençaient, alors là, je dirais, oui, là, péché grave. Ce sont les péchés, péchés de gourmandise, les péchés de parole à supposer qu'on ne nuise pas gravement à la réputation du prochain, bon, ce que vous appelez dans vos confessions les petits mensonges, bon, les péchés véniels. Hein, péché véniel. Le péché véniel pense quelque chose qui nous ferait comprendre un peu l'effet principal du péché. Péché mortel, vous savez, c'est la privation de l'état de grâce, on mérite l'enfer, etc. Bon. Péché véniel introduit une désorganisation, et on pourrait dire qu'il est mortifère, c'est-à-dire qu'il ne fait pas complètement mourir, puisqu'on si on a fait beaucoup, un milliard de péchés véniels ne fera jamais un péché mortel. Mais il crée une faiblesse, une disposition à la maladie, et à la maladie grave. Voilà. Il est pardonnable, véniable. Il ne nous sépare pas de Dieu. La grâce est là. Il ne mérite pas l'enfer. Et pourtant, il a une certaine gravité. On dit, on rapportait, si un seul ange ou un seul saint faisait un péché véniel au ciel, il serait tout de suite chassé comme un malpropre. Voilà. Bon, il y a des péchés véniels qui souvent sont indélibérés. Vous voyez, il manque souvent si ce n'est pas matière légère. Bon, alors je vous ai dit, soit que la matière est grave, mais il n'y a pas toute l'intelligence, pas toute la volonté. C'est un péché véniel. Matière légère. Mais on sait qu'on fait, et on fait quand même. Prenez l'amitié humaine. Vous avez un ami, vous avez un père, une mère, un frère, une sœur, une amie chère. Vous ne faites rien qui puisse casser l'amitié. Mais vous n'arrêtez pas de la peiner, cette personne. L'amitié, elle va être blessée quelque part. Elle n'est pas supprimée, le bien essentiel de l'amitié reste. Mais enfin, on peut dire que la libre communication, votre ami, celui qui est aimé d'amour, d'amitié, il va être moins disposé à vous communiquer ses biens, c'est sûr. Voilà. Bon, des exemples qui sont donnés. Ne jamais faire effort pour arriver à l'heure à la messe. Je dis bien, ne jamais faire effort, vous avez effort trop mou pour arriver à l'heure à la messe. Ou bien y assister systématiquement et volontairement sans dévotion. Pas de la dévotion sensible, mais trop discrètement. Voilà. On fait par exemple toujours le minimum dans la vie chrétienne. Moi je me contenterais d'un strapontin. Ben, mon ami, si vous comptez d'entrer dans un strapontin, vous avez des grandes chances de tomber dans l'allée. Moi, la dernière petite place au ciel me suffira. Essayez de monter plus haut, mon ami. On ne se prive jamais, on ne se mortifie jamais, on ne se renonce jamais. On ne fait aucun effort pour être agréable ou serviable avec ses proches. On leur sert la soupe à la grimace. On fait toujours subir aux autres sa fatigue, ses soucis. On s'arrange pour faire endosser aux autres ses responsabilités, ses devoirs, ses charges, bon, etc. Péché véniel. Et surtout, ce qui est à craindre, c'est l'état de péché véniel délibéré, pour lequel on vous fait vous torturer souvent à trouver le défaut dominant, qui, c'est vrai, qui est la source de pas mal de nos péchés. La forme particulière que nous avons d'amour propre. Et souvent, c'est assez souvent le revers d'une qualité que nous avons. Cherchez votre défaut dominant, cherchez votre qualité dominante. Et cherchez si cette qualité dominante, vous n'êtes pas en train de la subtiliser à la place de l'orienter vers Dieu ou l'orienter vers vous. Une forme d'orgueil sur votre qualité dominante. Une femme volontaire, décidée, active. Allez, faut que ça marche. 3. Attention. Orgueil, esprit de domination, révolte dans les contrariétés, dureté envers le mari, si vous êtes épouse, envers les enfants. Bon. Femme de tête, très bien. Il en faut. Femme de cœur, très bien. Parfait. Souvent le cœur avant la tête chez les femmes. Bon. Femme de tête, oui, très bien. Vous êtes sensible. Bon, en général, la femme est sensible. Elle est fière d'être sensible, et c'est bien. Bon, enfin, c'est moins bien d'être fière, mais être sensible, c'est bien. C'est bon. Attention au sentimentalisme. Voilà. Sentimentalisme dans les rapports avec Dieu. Sentimentalisme dans les rapports avec les autres. De prendre le sentiment de la chose pour la chose elle-même. Ou de vouloir le sentiment de la chose pour la chose elle-même. C'est tout à fait typique dans la contrition. On va sentir la contrition. C'est d'abord un état de la volonté. Alors parfois on la sentira, tant mieux, si ça nous aide. Mais tout le monde ne sent rien du tout. Simplement, vous ne voulez plus le faire, vous voulez prendre les moyens de plus le faire, c'est bon. Et la contrition. Ah mais je sais pas, s'il veut sortir du confessionnal, ça va jeter sur moi. Et je voudrais plus dès que je vais sortir du confessionnal, là, du parloir ou du confessionnal. Vous êtes décidé maintenant? Bien, bah, au sortir de confessionnal, vous aurez encore une grâce pour parler au prêtre qui vous donne les moyens pour maintenir cette contrition. Qualité du sentiment, affectueuse, affective. Bon, richesse du cœur, très bien. Est-ce que vous contentez du rêve, de l'imagination et du sentiment? Est-ce que vos sentiments vous posent à poser des actes concrets? Sinon, paresse, illusion, sentimentalisme. Bon. Autre cas, plus rare chez la femme, ça peut exister, femme intellectuelle. Quand elle connaît, c'est tout, ça suffit. Je connais, c'est bon. Ah non, après connaître, faut agir, faut aimer. Bon, plus rare chez la femme, plus chez l'homme, ça. Donc l'intellectuel, sentimentaliste, le volontaire. Bon, on pourrait passer en revue les tempéraments. Là, vous avez ça dans l'éducation chrétienne, là, de l'abbé de Lagneau. Hein, les sanguines, les nerveuses, les bilieuses. Alors bilieuse, c'est toujours été surpris. Bilieuse, ça veut pas dire qui se fait de la bile. S'inquiète. Le bilieux, c'est plutôt le tempérament, là, que je dis, qui se met en colère facilement, là. Paf! Bilieux, ça. Souvent des tempéraments actifs et passionnés. C'est des bilieux, ça. C'est pas bilieux, il se fait de la bile, là. Il est angoissé. Hein. Nerveux, souvent lié au sentimental. Sanguin, facilité sociale. Le lymphatique, ou la lymphatique. C'est pas un péché, attention. Mais plus difficile, l'émotion plus difficile. Donc l'action plus difficile. Donc la réflexion aussi, pas toujours. On peut donner un tempérament flegmatique aussi. Les sentiments ont du mal à démarrer. Bon. Alors souvent, c'est des défauts purement naturels qui vont être introduits à cause du péché originel. Quand je sais quatre blessures dont a parlé Monseigneur à midi, mais ces quatre blessures, une des blessures qui va être plus marquée chez nous. Peut-être c'est ça. Souvent, avec la qualité dominante, vous aurez le revers dans un défaut dominant. Assez souvent. C'est pas que ça, mais il y a ça. Et puis il y a des occasions, des circonstances qui fait que vous comprenez bien si vous êtes dans un perpétuellement dans une activité qui vous surmène ou dans un devoir, une croix qui est particulièrement lourde, forcément vous êtes tenté par l'impatience, la colère, la tristesse, le découragement. C'est pas forcément votre défaut dominant. Ça peut venir de bon. Alors entrons maintenant dans le sacrement de pénitence. C'est un sacrement, une chose sacrée de pénitence, de réparation. Alors, il y a trois choses dans le New Deal catéchisme. La contrition, qui est quasiment le plus important avec ce qu'a dit Monseigneur à midi. Contrition et componction, comme c'est important. Contrition habituelle et componction habituelle feront qu'à tout instant, vous pouvez vous confesser. Je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai rien à confesser, et puis c'est toujours la même chose. Oui, très bien. Vous ne pouvez pas essayer de demander une contrition plus forte, de faire une pénitence plus forte par rapport à ce que vous allez dire. Si vous répétez toujours la même chose. Il y a une chaise qui est bancale, elle est toujours bancale du même côté. Bah oui. Chez vous, c'est pareil. Vous faites toujours les mêmes fautes. Bah oui. Mais c'est pas toujours les mêmes fautes. Parce qu'il y a les circonstances. Parce qu'il y a l'action. Parce qu'il y a la bonne volonté. Parce qu'il y a les résistances qui ont préparé. C'est jamais tout à fait les mêmes péchés. Jamais tout à fait les mêmes péchés. Bon. Contrition. Surtout la contrition. Surtout ça. Confession, donc. Confesser des actes. Alors, matière du sacrement, on vous dit, c'est les actes du pénitent. Du pénitent lui-même. Hein, on le partera pour la confession, surtout. Attention de ne pas confesser le mari, les enfants. J'ai fait ça, mais c'est parce que mon mari est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. On part sur les défauts du mari. J'ai fait ça, mais ce sont mes enfants et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta et les défauts des enfants. Non, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui suis fautif. Bon, on peut dire une circonstance. Ah, j'ai beaucoup d'enfants, ou ils sont spécialement nerveux, ou agités, ou bon. Mais attention. Attention à ça. Donc, les actes du pénitent. Donc, j'apporte mes péchés, mes vilains péchés, qui sont très positifs. Les actes mauvais. Une volonté d'être pardonné du bon Dieu. Alors, Monseigneur nous indique, nous mettre devant la passion, devant les douleurs de la Sainte Vierge. Il est bon aussi une contrition imparfaite, l'enfer. Il y a certains péchés ou certains états de tiédeur, il faut se fouetter un peu en regardant l'enfer. Mon petit ami, si tu continues comme ça, même avec tes péchés véniels délibérés, tu vas en enfer. Séparation de Dieu, le feu, les injures qu'on entend au possible et les cruautés du démon. Saint Ignace dit, si la passion ne fait rien bouger en toi, dans une suite de péchés mortels ou de péchés véniels beaucoup trop prolongés qui te vont t'amener un jour au péché mortel, regarde un peu l'enfer. Vaut mieux trembler à une méditation de l'enfer que y aller. Il y en a dès qu'on va prêcher sur l'enfer, déjà, leur sang se glace. Vaut mieux un peu trembler. Et puis vous dire une chose, il y a une méditation charitable de l'enfer. Je m'explique. Bien sûr qu'on peut penser à soi dans l'enfer. C'est une chose. Mais si il peut être bon pour réveiller notre charité à penser à tel ou tel de nos amis ou même à tel ou tel de nos voisins ou à tel ou tel de personne, est-ce qu'on voudrait que cette personne qui est complètement indifférente, elle aille en enfer? Ça révèle la charité. Je veux pas quand même qu'elle aille dans le feu torturée par le démon. Donc je vais un peu me bouger, quoi, un peu me remuer. Bon. Il faut aussi penser à l'enfer pour les autres qui n'y pensent pas. Pas pour s'impressionner seulement de sensibilité. Pour un chrétien, je crois que là... Bon, je dis pas qu'il y a que ça, mais déjà être séparé de Dieu, vous avez eu toutes, plus ou moins, ou vous en avez, ou même en retraite, vous avez ça, des temps de désolation. L'impression que le bon Dieu, il est loin, il est pas là, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? C'est une image seulement, une image de la séparation de l'enfer, séparation de l'amour, simplement. Pas une séparation définitive, ce bon Dieu qui fait cache-cache avec l'âme, hein, dit le padre Pio. Bon. Mais déjà, cette séparation est douloureuse. Alors, qu'est-ce que sera qu'une séparation qui est éternelle, hein, où il y aura toujours le jamais, jamais, et toujours, toujours. On peut penser à ça, calmement. Pas pour se mettre dans des transes, pour changer, pour transformer notre âme. Mais ce qui est beaucoup plus profond, évidemment, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as fait ça. Toi, là. Toi. Et c'est moi. Pas le voisin. Toi. L'agonie de Jésus, le sang de Jésus, c'est toi, c'est moi. Tel péché, voilà ce que ça fait sur notre Seigneur. C'est très fort, ça. Très, très fort. Bon. Et puis, en plus, il en a pris plein la figure à ta place. Bon, comme si c'était lui qui avait fait. Alors, la confession, c'est pas seulement le seul aveu des fautes. La confession, c'est surtout, on veut de se convertir. Et hier, j'ai bien regretté de ne pas vous redire ce qu'avait dit Monseigneur, aussi bien hier qu'aujourd'hui. Conversio ad Deum, aversio a creaturis. Se convertir à Dieu et s'éloigner des créatures. Le péché, c'est l'inverse. Conversion vers la créature, je t'adore, je t'idolâtre, et aversion de Dieu, dégoût, haine. Pas de Dieu en tant que Dieu. D'ailleurs, souvent dans le péché, voyez-vous, les auteurs font remarquer ça. À moins de que ce soit des péchés directement lucifériens, sataniques ou diaboliques, ça existe aujourd'hui malheureusement, un peu trop, un peu plus qu'il ne faudrait, c'est souvent une attache déréglée à la créature. Dans le péché, il y a les deux choses. Il y a l'éloignement de Dieu et puis l'attache à la créature. Mais souvent, le plus souvent en péché, c'est l'attache à la créature. On voudrait bien ne pas s'éloigner de Dieu, mais on est attaché à la créature. Oui. C'est souvent ça, plus ça. Et il y a les deux pourtant, il y a les deux. On se détourne de Dieu, hein, et on s'attache à la créature. La confession, accusation de tous les péchés mortels non encore pardonnés. Bon, c'est un tribunal, c'est vrai. Et le prêtre n'est pas que juge, il est juge, c'est vrai. Il doit aussi se souvenir qu'il doit être avocat de ce qu'il juge, ce qui nous incline à la miséricorde. Mais on doit être juge, et juste, et voire juste. Hein? On est aussi médecin, voire chirurgien. Hein? Coup de bistouri. Ouais. Oui. Mais surtout, on doit être père. Il faut les trois. Hein? Si on n'était que juge, bah, vous allez fuir du confessionnal. Huit. Tyran. La loi, paf, ça tombe. Si on n'est que médecin, il faut souvent chercher à endormir le malade. Enfin, non. Mais enfin, disons. Disons, apaiser ou permettre facilement le remède. Le remède un peu amer. Aider à avaler le remède un peu amer. Pénitence qu'on va donner ou remède habituel. Et puis, père. On doit être père. C'est un tribunal de miséricorde. C'est vrai. Où les coupables sont libérés, mais il faut quand même avouer. Bien sûr. Et enfin, troisième partie qu'on oublie souvent. Car pour tous les sacrements, le Père Eugène nous disait « Nous n'achevons pas les sacrements. » Bon, c'est très vrai, je pense pas pour des personnes chrétiennes habituellement. Nous n'achevons pas notre baptême. Ceux qui, par exemple, ils baptisent leurs enfants, ils les envoient pas au catéchisme. Ben, c'est nul. Bon, c'est déjà pas mal, mais enfin, il y a de fortes chances que tôt ou tard, assez rapidement, le sacrement va être profané. Nous n'achevons pas l'Eucharistie. Sortons de la messe, là, pas d'action de grâce, rien, file, le poulet rôti attend à la maison. Bon, ou toute autre chose, ou une conversation bien intéressante avec le voisin ou la voisine. Bon, donnons du temps, notre Seigneur est là. C'est le moment le plus important de la semaine. Le moment où on est en train de faire l'apprentissage du ciel. Oh bah alors c'est ennuyeux le ciel. Hein. Ouf. Parce que mon père, mes actions de grâce, c'est sec comme un coup de trique. Ça fait rien. Vous savez que Dieu est là, restez avec lui. Vous voyez rien, tant mieux presque. Mais restez là, vous êtes là pour lui. Et lui, il est là pour vous. Et vous glorifiez, vous lui faites plaisir. Ah, et toutes ces sécheresses, et puis j'ai plus plein de distractions, puis je sais pas quoi lui dire, puis patatati, tatata. Je sais pas si on parlera du sacrement de l'Eucharistie dans la retraite. Bon. Soyez là pour Dieu, ça glorifie Dieu. C'est... Quand vous digérez, c'est une bonne digestion, vous n'êtes pas en train de sentir tout ce qui se passe dans le sang, tous les endroits qui sont alimentés dans votre corps. Vous nourrissez votre âme, posez des actes tranquilles, paisibles, de foi. Vous êtes là, Seigneur. Voilà. Je veux vous aimer, et vous, vous m'aimez, et vous êtes en moi, et je suis en vous. Voilà. Calmement. Je sens rien, tant pis. Tant mieux, presque, pour certains tempéraments. Qui se mettent à sentir, quoi que ça y est, tout est arrivé. Non. Que ce soit pas le sentir ou le non-sentir qui nous dirige. Mais la volonté calme d'être à Dieu. Je sais que la communion, Jésus est là, Dieu est là. Voilà. Je lui fais plaisir, je glorifie. Alors, je lui donne du temps. C'est un temps de sécheresse. Vous en faites pas, il vous donnera des consolations au moment où il le jugera bon dans votre journée ou dans votre semaine. Nous n'achevons pas le sacrement de confession. Monseigneur disait tout à l'heure, je ne sais plus comment il a expliqué, il dit ça, mais enfin, c'était un peu ça. On a fait, j'ai fait un pénitent, c'est fini, tout est fini. Non, tout commence. Commence quoi? La conversion, la réparation. Maintenant, je commence à bien faire. Voilà. Pourquoi Don Marmion, quand il traite dans le Christ vie de l'âme, il dit ça peut être bon que vous ajoutiez à la pénitence sacramentelle qui donne une grâce toute spéciale. Il faut la faire tout de suite. Ah, mais j'ai oublié. Faites tout de suite. Ou dès que vous pouvez. Enfin, l'oublier. Vous faites quelque chose qui remplace, si vraiment vous avez oublié. Mais faites. Et puis, y ajoutez quelque chose de soi. Et plus ce sera proche des péchés, plus ça contrariera nos péchés habituels, plus ce sera une pénitence excellente. Ouais. On peut ajouter une prière. Très bien. Le mieux, c'est d'ajouter une action. Une action qui va un peu contre ce qu'on fait. Ah, je pense du mal d'un tel. Bah, je vais commencer à penser du bien, et puis surtout, je vais commencer à prier pour elle. Très bien, madame. Bravo. Ah, je peux pas la voir. Bah, vous commencez à la voir dans la prière. Et puis, ça va fermer votre langue, parce que quand on commence à prier pour quelqu'un, on serait un goujat de parler mal contre cette personne. On va pas effacer la prière qu'on vient de faire pour elle. Quand j'ai prié pour elle, je me la boucle. Voilà. Stop. Commencez à faire ça. Ces vilains ennemis de l'Église, commençons à prier pour eux. On évitera des médisances et des manques de charité, patati pata. C'est sûr que si on passait la moitié du temps qu'on passe à juger, je sais pas quoi, et le pape et les prêtres qui s'en vont et machin, à prier, tout irait beaucoup mieux. Tout irait beaucoup mieux. La moitié du temps. Que serait-ce à dire que tout le temps qu'on y passerait. Perd du temps, perd des grâces pour l'Église, pour tout ça. Le pape, les évêques, oui, tout va mal. Les autres, les francs-maçons. Eh bon. Mon prochain, juste à côté de moi. Les francs-maçons, on s'en fiche. Ton prochain, tu l'aimes. Qui est à côté de toi, là, ton voisin. Les gens de ta maison. Achever le sacrement de confession. Satisfaire pour nos péchés. La contrition est la disposition la plus importante. Elle doit accompagner avoir un cœur habituellement contrit, réparateur. Une guerre, une maladie qui nous ôte l'usage de la parole, une guerre qui survient, qui nous empêche de trouver un prêtre, peuvent nous dispenser de l'accusation de nos fautes. Une mort brutale peut nous dispenser de satisfaire, du moins ici-bas. Mais sans contrition, il est tout à fait impossible d'obtenir le pardon des péchés. Regret des péchés. Et c'est une grâce surnaturelle, et il faut la demander et la redemander, une douleur habituelle de nos péchés. Ah, mon père, je suis très, très orgueilleux ou orgueilleuse. Alors, vous allez avoir une petite cassette noire, comme il y a dans les avions, avec 3 ou 4 péchés bien saignants. Et quand vous serez tenté d'orgueil, toi, t'as fait ça. Alors, tu te la boucles sur ce que les autres ont fait. Voilà. Toi, t'as fait ça. Bon, ça met la chose à plat. La baudruche, le propos de ne plus recommencer, le ferme propos, il faut le demander, cette ferme volonté, d'au moins poser des pas dans la direction. Je vais essayer de faire mieux, un peu mieux. J'étais tourné comme ça, je vais commencer à me mettre dans la bonne direction et de faire des petits pas. sont partis dans l'autre direction, dans des voies de traverse. On ne promet pas qu'on ne retombera jamais. Évidemment, qui pourrait le dire? On promet qu'avec la grâce du sacrement de pénitence, on fera des efforts possibles pour se corriger. Voilà. C'est une bonne douleur, une sainte douleur, et qui met la joie dans le cœur, et qui est facile à faire. Mon père, j'ai pas dit mon acte de contrition. Absolution. J'ai pas dit mon acte de contrition. Ma pauvre dame, sûrement qu'avec l'absolution, vous n'avez pas le pardon des péchés. Bon, je dis ça en riant, parce que souvent, ça, je donne l'absolution. Mon père, j'ai pas dit mon acte de contrition. Oh là là, que c'est grave. Vous l'avez, la contrition. Alors, vous l'exprimez, c'est très bien. Mais c'est pas pour la validité du sacrement. Vous l'exprimez, très bien. Heureux de l'entendre. J'ai un très grand regret. Parfait. Mais, vous l'avez en cœur. C'est pas pour la validité. C'est bien de le dire, mais vous inquiétez pas. Même si vous avez oublié, j'ai reçu l'absolution, il m'a pardonné. Mais bien sûr. Et même, je vais plus loin. Et ça, c'est une vérité importante qui est développée dans ce beau livre du père Kergoustin, Pour un ciel plus beau. L'acte de contrition parfaite. Qu'est-ce que c'est que la contrition parfaite? C'est la charité parfaite à l'occasion du péché. Il n'y a rien de plus facile à faire. C'est un acte d'amour, je regrette. Je vois l'amour de Dieu, je vois mon manque d'amour à moi, ma méchanceté, ma malice, mon inconscience. Je rapproche les deux, paf, contrition parfaite. C'est tout simple. Et alors, une chose merveilleuse, c'est que la contrition parfaite, avec la volonté de se confesser dès qu'on pourra, vous remettre tout de suite en état de grâce. Je prends un exemple. Vous avez l'impossibilité morale, vous faites un péché même grave, admettons, le mardi ou le mercredi. Je vous souhaite pas de faire un péché grave. Bon, mais admettons que vous fassiez ça. Et puis vous dites, mais je pourrais pas me confesser avant dimanche. Les transes. Alors jusqu'à dimanche, je mérite l'enfer. Jusqu'à dimanche, je mérite plus rien du tout. Tout ce que je vais faire de bien, c'est zéro devant Dieu. Découragement. Tout au fond de là. Non, dès que vous avez formé cette contrition parfaite. Mais comment je peux savoir? Vous voulez refaire ça? Non, je vais pas faire ça. Vous voulez déplaire? Non, je vais pas. Je vais plus. Puis je suis tombé. C'est un feu que j'ai pris, que je lâche. Vous êtes en état de grâce. C'est fini. Vous y êtes. Confessez-vous dimanche, mais vous y êtes. Et faites des actes d'amour. Et peut-être que bon Dieu a permis ce péché grave, ou même ce péché véniel un peu saignant, pour que vous puissiez faire une heureuse faute. Si vous n'aviez pas commis ce péché-là, vous n'auriez pas fait les 10 ou 20 ou 30 actes d'amour qui va venir après. Oh mon Dieu, comme je regrette cela. Ah, je suis toujours bien à la même. Ouais. Faire des heureuses fautes. Le principe de saint Augustin. Dieu préfère faire exister un mal dont il sortira un plus grand bien plutôt qu'il n'y ait eu aucun mal. Plutôt que ce soit dans le péché grave, que ce soit dans des péchés moins graves tels que le péché véniel. Vous pouvez lire aussi un très beau livre qui vous aidera pour vous relever après les péchés, les fautes. L'art d'utiliser ses fautes par Monseigneur le Père Tissot, c'est excellent. Apprendre à faire des heureuses fautes. Et le Père Groux explique très bien que Dieu, dans sa providence, a prévu que nous ferions des péchés véniels, etc. Et il a prévu également dans sa providence tous les actes d'amour que nous allions faire après ces actes que nous avons commis, mauvais. Et peut-être s'il n'y avait pas eu certains de ces actes mauvais, il n'y aurait pas eu tous ces actes d'amour. Alors je vous dis pas de faire des péchés pour dire « après je vais faire des actes de réparation », c'est pas ça que je veux dire. Hein? Mais ce qui a été fait, c'est fait, on ne peut plus le changer. Mon passé à votre miséricorde, dit le Padre Pio. Mon présent à votre amour et mon futur à votre providence. C'est magnifique ce refrain, il n'y a qu'un saint qui peut inventer ça. Mon passé à votre miséricorde, je laisse, c'est fini, c'est derrière, on n'en parle plus. Ça s'étend un peu au présent, par la miséricorde et la contrition. Mon présent à votre amour. Tous les actes d'amour, tous les actes d'adhésion à la volonté de Dieu, dans le présent, répare votre passé. Faut pas vivre selon le passé. Faut pas vivre à reculons de l'enfer, et faut pas vivre selon le passé. Faut vivre au présent, dans le présent du bon Dieu, dans sa providence. Et puis, mon avenir, à votre providence. Ça, à votre providence. Je fais ce que je peux maintenant. Voilà. Que c'est consolant. Sagesse et miséricorde de Dieu. Le péché mortel nous avait séparés de Dieu, qui est le souverain bien, et nous méritait l'enfer, qui est le souverain mal, et bien notre regret pourra porter sur la perte du souverain bien, sur Dieu et sur l'offense qui lui est faite. C'est la contrition parfaite. Voilà. L'imparfaite reste bonne, si c'est qu'à cause de l'enfer. Bon. Contrition, broyée de douleur. Examen de conscience. Il porte sur des actes, pas des tendances. Le père Eugène, quelquefois, Il entendait « Mon père, je suis gourmande, je suis orgueilleux, je suis ta 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 ta, je suis ceci, je suis cela. Bon, maintenant, dites-moi vos péchés, vos actes, parce que moi aussi, je suis gourmand, je suis orgueilleux, j'ai les 7 péchés capitaux comme vous. Maintenant, dites-moi vos actes. » Voilà, vos actes. Et de temps en temps, ça peut être bon de dire plutôt « J'ai été gourmande », ça peut être bon des fois de préciser. Voilà. « Je mange trop de chocolat, mon père. » Voilà. « Ah, c'est honteux. Ah, vous... » Vous faiblissez devant du chocolat. Ben oui, bon. J'ai dit telle parole méchante à telle personne. C'est mieux que dire je suis médisante. Je lui ai dit, puis j'avais prévu, puis tiens, tiens, prends ça, un chien de ma chienne. Je suis vengé méchamment. Je suis moqué méchamment. Voilà. Bon, etc. Bon, pour ce qui est des péchés, plus spécialement de sensualité ou d'impureté, s'il prête le juge nécessaire, il l'interroge. Bon. Ou si vous pensez qu'il y a une circonstance que vous n'avez pas trop dire ou craignez, vous demandez à Sainte Vierge de vous faire dire ce qu'il y a à dire. S'il prête le juge nécessaire, il voit ce qu'il faut dire. Des actes, pas des tendances. Ne pas vous laisser retenir par la fausse honte. Oh, si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et des fois, il faut le dire, c'est pour ça qu'il peut être bon, quelquefois, pas toujours, de bien distinguer le confesseur et le directeur spirituel. Ça peut être bien, c'est vrai, de se confesser à son directeur spirituel, mais ça peut être l'occasion de nouveaux péchés, en un sens. Attends, je ne dis pas qu'il ne faut pas se confesser à son directeur spirituel. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais parce qu'on a conçu une certaine estime, et alors il y a des péchés qu'on n'osera peut-être plus dire. Faites attention, gardez votre liberté. En principe, tout directeur spirituel vous dira que vous pouvez vous confesser à qui vous voulez. C'est pour le pardon des péchés. Alors, c'est sûr que ça peut être intéressant de savoir tel ou tel péché, qui a eu telle ou telle faiblesse. Hein. Mais c'est deux choses quand même bien différentes. Hein. Pas de fausse honte, pas de fausse honte, pas de fausse honte. Et si vous l'avez, priez la Sainte Vierge. Voilà. Pas de fausse honte. Au contraire, souvent nous sommes très édifiés. Bon, n'allez pas rajouter les péchés comme certains enfants. Hein. Ils presque en rajouteraient parce que ça nous édifie. Bon, non, n'allez pas faire ça. Mais... Il y a des confessions, c'est à se mettre à genoux. Ce qu'on entend, je crois pas que j'aurais été capable de dire telle ou telle chose. Comment, où a-t-il puisé le courage de me dire des horreurs pareilles? Et pourtant, il les a dites. Oh, il doit être drôlement humble, puis il doit avoir l'amour du bon Dieu dans son cœur. Nous devons avoir la conviction profonde, nous prêtre, plus que vous peut-être, parce que nous connaissons les profondeurs, les hauteurs du bien et les profondeurs du mal. Je suis capable de n'importe quoi, n'importe quand. Je suis capable de n'importe quoi, n'importe quand. Il faut demander que c'est cette conviction qui habite le cœur de vos prêtres. Nous sommes capables de n'importe quoi, n'importe quand. Il faut savoir, c'est comme ça, comme ça. Donc on n'a pas à se scandaliser de l'orgueil, de l'impureté. Pouf, aujourd'hui l'impureté, mon Dieu, pouf. Une marée d'impureté, des horreurs, des abominations publiques et secrètes, des horreurs. Bon. Et pourtant c'est pas ça les péchés les plus graves. C'est pas les péchés les plus graves, c'est pas la luxure la plus grave. Elle est ô combien abominable et combien elle jette d'hommes en enfer. 99%, a dit Saint Alphonse Marie Ligori. Si cette luxure poussée à fond avait été accompagnée d'un zeste d'humilité, l'homme était sauvé. L'homme était sauvé. Non. L'abomination, c'est l'orgueil. L'orgueil. Les deux péchés qui ont été sans cesse combattus dans l'Ancien Testament, c'est l'idolâtrie liée à l'orgueil ou à la tromperie du démon et la luxure. Mais surtout, pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est la luxure de l'âme, quoi. La satisfaction de soi, l'autosatisfaction de soi. Soi au-dessus de Dieu, son indépendance, son autonomie, sa nature. Et pourquoi l'homme est-il si sujet aujourd'hui à la luxure? Parce qu'il est orgueilleux, l'être humain. C'est l'orgueil. Saint Antoine de Padoue nous dit, tu veux vaincre l'ours de l'impureté? Commence par vaincre le lion de l'orgueil. Les deux sont liés. L'homme qui est orgueilleux, il tombera dans l'impureté, sûr. Sûr, tôt ou tard, il tombera dans l'impureté. Comme punition de son orgueil. Et peut-être aussi comme moyen pour qu'il s'humilie. Parce que l'homme s'humilie difficilement quand vous lui dites qu'il est orgueilleux. Et quand il est bien tombé dans un péché de luxure, bien formel, bien chaud, alors là, s'il s'en relève, si avec la grâce de Dieu il s'en relève, il est vacciné. Il est vacciné. Alors c'est pas souhaité de tomber en luxure, hein, ni pour un prêtre, ni pour d'autres, mais bon. N'importe quoi, n'importe quand. Donc, pour nous dire cela, aussi saint, aussi zélé, aussi tout ce qu'on veut, avec toute la fidélité qu'on peut souhaiter, notre fidélité, notre inconstance, hein, que nous pouvons faire n'importe quoi, n'importe quand. Et pas de fausse-honte, pas de fausse-honte, vous ne laissez pas faire par ça. Le prêtre n'est jamais étonné lorsqu'il entend des choses graves et honteuses. C'est un médecin, on est médecin, on est juge. Nous savons que nous sommes pécheurs, et surtout en tant qu'hommes, et que nous sommes faibles et vulnérables. Nous savons bien que le Christ a expié tous les péchés, tous, les plus abominables. Voilà. Donc il faut, vous allez confesser, chercher l'absolution, et je dirais vous spécialement mesdames, cherchez le prêtre et pas l'homme. Cherchez le prêtre, l'homme surnaturel, pas l'homme. Fut utile toutes les qualités du monde, d'intelligence, de cœur, de bonté, tout ce que vous voulez. Faites un action naturelle. Je vais au Christ, c'est le Christ qui est derrière, qui entend mes péchés, pas l'homme. Et certaines saintes ont mérité ça quelquefois, certains saints. Alors que c'était pas le Christ, le confessionnal, c'était le Christ qui était derrière. Bon. Cherchez le surnaturel. Cherchez l'absolution. Cherchez le prêtre. Je vais au prêtre. C'est Christ miséricordieux qui écoute mes péchés. Il y a le ministre qui est là, d'accord? Plus il sera conformé au Christ, et plus, évidemment, vous recevrez de grâce, c'est vrai. Mais d'abord, le ministre de Jésus-Christ. Ma grâce ex opere operato, par l'œuvre accomplie, le pardon de mes péchés, c'est le Christ qui donne, c'est lui qui est la source. Ensuite, par la ferveur de mes actes, peut-être aussi des grâces plus spéciales, par la sainteté du ministre, dans la mesure où il est uni au Christ, c'est vrai. Mais d'abord le Christ, au Christ, au prêtre, l'homme de Dieu. Découvrir les plaies de son âme au Christ lui-même pour qu'il les guérisse. De même pour le secret de la confession, qui est objet de grandes vertus et de grandes menaces aussi pour nous. Secret absolu, inviolable. Ce qui est, ah oui, puis on l'oublie, oh, t'as, je l'oubliais, dehors. Bon, alors si ensuite en direction vous voulez qu'on en reparle, bah, vous nous dites, on en reparle. Ou le prêtre demande, on peut reparler de ça. Oui, très bien. Aucune raison pour pas aller se confesser. Rien. Bah, écoutez, l'amour propre, le démon, tout ce que vous voulez. Bon, ne vous torturez, si vous êtes trop torturé par l'examen de conscience, vous arrivez juste avec ce que vous avez vu, et puis le prêtre complétera, vous aidera. Vous voyez. Que de gens qui sont, ils sont plus torturés par l'examen que par la confession elle-même. Il y en a, c'est les doubles supplices de Tantale qui font qu'ils ne se confessent pas assez souvent. À fréquence de la confession, tous les combien? Je pense qu'une bonne chrétienne devrait se confesser tous les mois, au minimum. Il me semble, une chrétienne habituelle qui fréquente les sacrements, qui veut se sanctifier tous les mois. Au plus, les grandes fêtes. Si vraiment vous avez des angoisses abyssales pour vous confesser. Il y en a, c'est comme ça. Depuis leur première confession, ou dans leur jeunesse, ou l'adolescence, ont eu des mauvaises expériences, chez un confesseur trop dur, des angoisses trop grandes en elles, et puis elles ont gardé une impression de la confession, elles ont un mal de chien à se confesser, soit parce qu'elles n'arrivent pas à s'examiner, soit parce qu'elles sont terrorisées. Bon. Alors, elles ont plus de mérite à le faire, et peut-être c'est pour elles plus difficile. Mais croyez pas trop vite que vous êtes dans ce cas-là, quand même, hein. Bon. Bon, ce méchant péché dominant, nous en parlerons peut-être plus dans les résolutions. Bien sûr, veillons à ne pas faire de confession sacrilège. Vous trompez le prêtre peut-être, mais pas Dieu. N'ayez pas l'esprit du démon muet. En principe, si vous priez le Christ dans sa passion, si vous priez la Vierge des douleurs, les péchés sortiront facilement tout seuls. Puis si vous avez du mal à dire, le prêtre vous aidera. Hein? Ou si vous n'avez pas comment dire, oh, c'est un peu délicat, expliquez mon père. Bon. Vous a appris comment on devait faire pour dire les choses délicatement, sans détails excessifs ou qui recréent des tentations, surtout pour ce qui concerne l'impureté. Les péchés véniels délibérés, volontaires, c'est pas obligatoire, ils peuvent être remis, vous savez, par un acte de charité, une pénitence volontaire, une bonne communion. Mais c'est fortement conseillé de les accuser, surtout ceux qui reviennent le plus souvent, pour éviter la tiédeur, pour les déraciner. Doit-on parler des tentations? La tentation n'est pas péché, elle nous éprouve, nous fait combattre. C'est pas à accuser, mais il peut être conseillé de les faire connaître. C'est normal qu'en période de tentation, vous fassiez plus de péchés. C'est évident. D'ailleurs, en période de tentation, il vaut mieux se confesser un peu plus souvent. Et communier plus souvent. Parce que la grâce propre du sacrement de confession, c'est le combat. La grâce propre du sacrement de confession, c'est le combat contre le péché. Et plus spécialement, les péchés que nous commettons. Il y a une grâce spéciale qui est donnée. Ex opere operato. Avec l'absolution et donner la grâce de réagir contre ce péché. On peut éventuellement, pour augmenter la contrition, accuser rapidement une ou deux fautes passées. Veillez à ce que vos confessions soient claires, donc, appelez péché ce qui est péché, bien sûr. Accuser des faits, des actes, je vous ai dit, pas des tendances de nature, bon. C'est bien, ça. Bon, attention de pas vous perdre dans les détails. Les enfants, c'est amusant, quelquefois. Ils donnent toutes les circonstances autour. Vous avez bien la la responsabilité de la volonté, puis il y aura toutes les circonstances adjacentes. Bon, amusant quelquefois. Bon. Satisfaire au péché, donc vous faites la pénitence sacramentelle qui actue le pardon. Vous avez fait une faute, donc vous réparez par une peine. Et vous donne grâce. Vous pouvez y ajouter une peine particulière. Un acte, une prière, une action, quelque chose qui va contre votre défaut ou vos défauts habituels. Un acte positif ou une réparation. Les effets de l'absolution, immédiatement pardonnés sont nos péchés, immédiatement l'amitié divine s'il y a eu péché mortel, grâce sacramentelle, grâce de force pour acquérir les vertus et nous éloigner du péché. Et souvent, le bon Dieu donne quelques grâces sensibles, c'est vrai, au moins la conscience, une certaine paix, une certaine joie. Je pense, nous sommes au mois de... Vous avez ici donc des petits... Vous pourrez prendre en sortant, il n'y a peut-être pas tout le nombre qu'il faut, je sais pas. Bon, vous verrez. Nous sommes dans le mois du précieux sang. Le mois du précieux sang. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de sa passion. Ce sang est incroyablement efficace pour laver et purifier nos âmes. Je ne sais pas si vous les avez dites, certains ne les ont peut-être pas dites du mois parce qu'ils ont oublié ou parce qu'ils ne savent pas. Dites et réfléchissez à certains des titres de ces... litanie du très précieux sang. Magnifique. Pas tout dire, mais le sang du Christ qui est fleuve de miséricorde. Un fleuve de miséricorde. Il est l'espoir des pénitents. L'espoir des pénitents. Le soutien de ceux qui sont dans le danger. Ah, au sujet là, pour clore, avant d'aller faire une petite prière à la chapelle, il peut être bon, ça va vous étonner, de faire une confession de prévention. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Me faire pardonner des péchés que je vais commettre ? Non. Mais mon expérience du passé fait que des péchés commis par le passé m'indiquent que dans telle situation donnée, des tentations vont se réveiller et je risque de recommettre ces péchés-là. Alors dans ce cas-là, on renouvelle sa contrition par le sacrement sur ces péchés passés de façon à obtenir des grâces de prévention. C'est très puissant, très efficace. Ça se rajoute, ça se... ramène évidemment à une confession de dévotion, c'est vrai, mais aussi une confession, je dirais, de prudence, oui, et d'humilité. Bien, j'en ai à la chapelle demander cette grâce de faire une sainte confession de retraite.